jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Combien de fois on l'entend celle-là, hein? Et que ça allait donc mieux avant. Et qu'on était mieux avant. Ben là, la chronique des deux Légers, Jean-Marc Léger, le papa, président de Léger Marketing, et de son fils Philippe Léger, millénial et étudiant, est intitulé ce matin dans le Journal de Montréal « Le bon vieux temps ». Et là, il y a Jean-Marc qui dit à son fils « Là, là, tu vas arrêter là, le bon vieux temps, le bon vieux temps. » Moi, te le dire comment ça se passait dans le bon vieux temps. Et là, Jean-Marc Léger est avec nous en studio. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Accompagné de Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors là, je vous le dis, les auditeurs, là, on va avoir la discussion avec papa et fiston. Puis après ça, on va prendre vos appels. Est-ce que vous pensez, vous, que ça allait effectivement mieux avant ou est-ce que ça va mieux maintenant? Hein? C'est un jugement de valeur, mais c'est un jugement aussi un peu informé pour certains d'entre vous qui avez connu le avant et le après. On va prendre vos appels après la discussion. Et je vous le dis, Jean-Marc et Philippe vont rester avec nous. Fait qu'on va pouvoir discuter tout le monde ensemble. Mais d'abord, Jean-Marc, c'est vraiment toi qui prend le leadership, mettons, de cette chronique-là.
C'est la première fois. Hein? Ben, ça fait une dizaine de chroniques qu'on est là. D'habitude, oui. C'est les milléniaux qui sermonnent les vieux, les baby-boomers. Là.
Oui.
Là, c'est la différence. Là. C'est le baby-boomers qui dit aux jeunes, non, 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 fais attention. Parce que derrière ces chroniques-là, il y a toujours un vaste sondage. Moi, je m'appuie toujours sur la perception, l'opinion des gens. Puis là, on découvre qu'on savait que le baby-boomers serait nostalgique du bon vieux temps. On n'a pas les valeurs qu'on avait. La jeunesse n'est pas ce qu'elle était. C'est tous les clichés qu'on entend. Mais là, on découvre dans le sondage que les milléniaux pensent encore plus que c'était le meilleur avant.
Ils pensent plus ça que les baby-boomers eux-mêmes.
Exactement. Et c'est pour ça que quand on a vu les résultats, on a dit que 57 % des milléniaux disent que c'est mieux avant, alors que les baby-boomers, c'est 47 % qui disent que c'est mieux avant. Fait que là, on s'est dit, là, quand on a trouvé ça, on a dit, oh, je pense qu'on a touché une corde sensible. Mais les baby-boomers l'ont tellement répété que même les jeunes croient que c'était mieux avant.
Alors, vas-y sur, mettons, les fausses croyances.
Oh, il y en a plein. Il y en a plein, il faut se croire. J'ai lu un livre, ceux que ça intéresse, là, qui est un livre qui s'appelle « C'était mieux avant ». J'étais en France dernièrement, un auteur qui s'appelle Michel Serres. Il a 88 ans. Et là, il sermonne la jeunesse en disant « Je vais vous expliquer comment c'était avant ». Puis, il y a plein d'exemples qui sont tellement clairs, puis on prend pour acquis. Il y a 100 ans, là, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Dites-moi si c'était mieux avant. Il y a 100 ans, il y avait la pauvreté, la misère, 75 ans, la pauvreté, misère, la guerre. On a vécu la guerre au 20e siècle.
Deux fois plutôt qu'une.
Deux fois. Est-ce que c'était mieux avant? Les femmes n'avaient pas le droit de vote, ne dirigeaient pas les entreprises, étaient nulle part, c'était des citoyens de seconde zone. Est-ce que c'était mieux avant? Et là, on se rapproche de plus en plus d'aujourd'hui, là, en disant, oui, mais avant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de mobile. Les automobiles, ils cassaient tout le temps. Est-ce que c'était mieux avant? On n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait pas rien.
Mais non, il fallait avoir de la glace pour stocker la nourriture pendant l'hiver.
Moi, mes parents qui vivaient à Saint-Henri, on vient d'un milieu pauvre, mes parents, moi, ils à Saint-Henri, ils passaient avec la glace là, quand
oui.
ils étaient jeunes.
Ils enveloppaient ça dans du brin de scie.
Oui, puis hein? la bouffe.
Pas qu'elle fonde trop vite.
Exactement. Puis la bouffe, à l'époque, là, n'était pas toujours très saine. La bouffe, là, on dit, les gens produisaient leur propre nourriture. Oui, mais c'était sale.
Mais pourquoi on donnait une orange à Noël?
Ben, exact.
On donnait une orange à Noël parce qu'il n'y en avait pas le reste de l'année, des oranges.
Exact.
C'est un cadeau.
Fait que la question, Bernard, quand on dit c'est mieux avant, c'est quand avant?
Ben, c'est ça, Philippe.
Ben, c'est encore pire parce que le sondage est surprenant, mais il est aussi inquiétant parce que on parle du passé. On pense que les jeunes estiment que c'était mieux avant. Mais même au présent, les jeunes pensent qu'on s'en va dans la mauvaise direction en ce moment. À 58 % des milléniaux, donc ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans, pensent qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Et même au futur, on pense que dans 50 ans, ça sera pire. Donc, on pense que c'était mieux avant. On pense qu'en ce moment, on s'en va dans la mauvaise direction. Et on pense que dans le futur, on n'ira pas dans la bonne direction,
donc,
encore une fois.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des pessimistes, les
milléniaux? Oui, ce sondage-là le démontre. On est une génération assez pessimiste pour l'avenir. Et pire que ça, on n'a pas la confiance en nous pour dire « Hey, on va changer ça.
Ben »
Si on pense que c'était pas mieux avant. Et même que...
Vous avez toujours l'air au-dessus de vos affaires. Je le sais, moi, j'en ai deux milléniaux à maison. OK? Puis sérieux, là, vous êtes toujours au-dessus de vos affaires. Puis vous... Non, mais c'est vrai, ça.
Je suis d'accord. Mais je vais donner un compliment au baby boomer.
OK, on arrête le temps. s'arrête.
Écoutez, baby boomers.
Si, bon, vraiment, si les baby boomers avaient eu cet état d'esprit-là un peu pessimiste, ben, vous n'auriez pas fait les changements nécessaires à la société des années 60. Et ça m'inquiète un peu pour l'avenir de ma génération de se dire, hey, on est tellement peut-être individuel qu'on n'a pas l'impression qu'on peut faire le changement collectif nécessaire.
Mais il y a des choses, ça, dans la tête. On dit, pensez-vous que c'était mieux quand ça prenait du temps pour trouver son chemin, quand on n'avait pas de GPS? Hein? Pensez-vous que c'était mieux quand ça prenait des heures pour trouver une information? Aujourd'hui, en 2 minutes, tu as accès au savoir planétaire. T'sais?
Mais
la technologie aujourd'hui nous permet de faire des choses extraordinaires. Il y a une part de d'ombre aussi, il y a une part de soleil. Là. Il y a des deux dans la technologie, mais quand même, on n'est pas à l'époque qu'on était.
Parce que la technologie numérique, moi, qu'est-ce que le sondage aussi nous démontre, c'est que les changements dans une société, là, on est dans une période de changement en ce moment. Je pense que la période qu'on vit, c'est une période de changement, mais ça amène toujours des mécontents, ça amène toujours de l'incertitude, ça amène toujours des bouleversements dans la vie des gens. Puis c'est sûr qu'il y a une certaine partie de la population qui va être inquiète pour l'avenir. Mais et qu'est-ce qu'on apprend? C'est que même les jeunes sont inquiets, c'est pas juste les plus vieux.
Mais je veux juste revenir sur le GPS. Ouais. Tu sais, il fut un temps, on se promenait avec une carte. On avait toujours, nous, des cartes dans notre coffre à gants.
Jamais à jour, là, mais...
mais au moins, on avait ça. Ouais. Aujourd'hui, là, si jamais on perd le cellulaire puis on perd le GPS... Ouais. On est perdu. Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais je suis en train de dire qu'on était peut-être plus autonome.
Oui, mais tout est plus rapide. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas perdre 1h30 dans les routes pour trouver ton chemin, pour aller rencontrer quelqu'un. Tu as besoin...
On est devenu complètement dépendant de cette technologie-là.
Oui, parce qu'elle est efficace. Moi, je suis dans le domaine du marketing. Les gens pensent qu'on fait du sondage politique, là, mais dans la vraie vie, là, les entreprises développent des applications, mais c'est le peuple qui les accepte ou pas. Si vous avez votre iPhone aujourd'hui, là, vous savez, l'iPhone a été créé en 2007. Ça fait 11 ans seulement. Facebook, ça a été créé en 2004. Ça fait même pas 15 ans, Facebook, que ça existe. Là. Il s'est passé des choses dans les 20 dernières années là, qui est extraordinaire, mais qui nous donne accès à un savoir, à de l'information qu'on n'a pas. Si on avait un moment dans l'histoire humaine où vous auriez à choisir à quel moment vous naîtriez, il me semble que c'est aujourd'hui.
Tu dirais, toi, ah oui, de tous les moments, de toutes les époques.
Ah oui, oui. Oui, oui. Puis on n'est pas conscient d'où on vient aussi. Là. Quand le viol était permis dans les familles parce que tout était caché, quand l'Église catholique contrôlait la société québécoise.
L'inceste,
la malpropreté, les gens urinaient partout. On se rappelle, aujourd'hui, on regarde ça avec nostalgie, on se dit, oh, il y avait le bon temps. Non, moi, je pense que la période d'aujourd'hui est mieux. Et d'ailleurs, dans ça, on a découvert plein de choses aussi pour pourquoi ça va mieux aujourd'hui. T'sais. Je vais peut-être laisser Philippe.
Ben oui, on a sondé les forces et les faiblesses des milléniaux comparativement aux baby boomers. On a voulu regarder c'est quoi leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et on s'aperçoit que, d'abord, l'utilisation des nouvelles technologies, c'est assez évident, l'ouverture sur le monde, mais aussi la nouvelle religion des jeunes qu'on appelle, nous autres, le bien-être, la santé physique, le plaisir de vivre. La nouvelle religion, donc le bien-être, c'est vraiment les forces des milléniaux comparativement à leurs faiblesses qui sont l'endettement. Plusieurs jeunes vivent avec une précarité financière. On a des moins bonnes perspectives économiques que les baby boomers, c'est connu. Les emplois instables, l'effort au travail. Moi, j'apporterais un petit bémol à ça. On juge un peu les jeunes qui veulent les horaires atypiques, qui se tassent un peu du 9 à 5. Donc, je pense que c'est un jugement de valeur de la part des baby boomers. Peut-être que Jean-Marc pourra dire qu'est-ce qu'il en pense là-dessus parce qu'il est l'entreprise. Et la consommation. La génération des milléniaux, on surconsomme continuellement. Il y avait une statistique qui était ahurissante. 87% des jeunes avaient acheté au cours de la dernière année un objet ou un produit qu'ils n'avaient pas besoin.
D'ailleurs, surconsommation et endettement vont ensemble. On s'entend probablement là-dessus. Par ailleurs, perspectives économiques, tu dis, elles sont moins bonnes que celles des baby boomers. Je suis pas sûr de ça, moi.
En termes d'argent, il y a plusieurs études qui prouvaient que la génération des milléniaux, ils vont avoir moins accès à de l'argent que la génération des baby boomers. Et la même chose au niveau des perspectives d'emploi.
Ils sont beaucoup plus endettés, ils sortent d'université beaucoup plus endettés qu'avant.
Oui, mais parce qu'ils consomment plus, pas parce que les frais de scolarité ont monté tant que ça.
C'est un mélange. Ils sont endettés, c'est sûr qu'ils consomment plus. Ils veulent l'avoir du tout et maintenant, c'est l'instantanéité.
C'est clair.
Mais derrière ça, dans les études, par exemple, une maison coûtait 5 fois le salaire il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 9 fois le salaire que ça coûte. Tout coûte beaucoup plus cher. L'accès à la propriété est plus difficile. T'sais. Cette génération-là commence dans la ville, est endettée et forcément, elle cherche à consommer. Fait que vous avez d'un côté une génération qui est hyper cheap, qui veut payer le moins possible.
D'ailleurs, c'est le phénomène des tangués.
Des tangués.
Qui restent chez nous parce qu'ils
payent le moins cher possible.
Mais c'est
aussi
une conséquence, le fait qu'on a des perspectives économiques moins probantes.
Oui, mais en même temps, le week-end, ils vont payer 200 $ pour aller manger dans un grand restaurant et mettre une belle photo sur Facebook, montrer comment leur vie est extraordinaire.
Instagram,
probablement.
Facebook est en train de devenir out, mon cher Jean-Marc. Tu es d'accord, Philippe?
Oui, Instagram, c'est...
Instagram, c'est ça qui est in,
oui. Là. Hein? Imaginez, aujourd'hui, toute notre vie tourne autour de Facebook, Instagram, Twitter. Ça n'existait pas il y a 20 ans.
Non.
A été vu avec ça. Et ça, ce que je dis, c'est que les possibilités sont énormes. Il y a une part d'ombre, la violence, par exemple. Un jeune aujourd'hui, Bernard, là, qui a 18 ans aujourd'hui, a vu dans sa vie 1 million de meurtres. Ça veut dire les films, les jeux vidéo, la télévision, les nouvelles. Il a vu, c'est comme normal que quelqu'un se fait tuer. Hein? Quand cette violence-là est là, 11 % des jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui ont déjà eu une période de dépression.
Vraiment?
Oui. Fait qu'il y a quand même un mauvais côté des technologies où ils ont accès à tellement d'informations, que ce soit la violence, la sexualité.
À un moment donné, il y a comme une surcharge.
Oui, puis là, aujourd'hui, ils composent avec ça. Ils composent avec cette réalité-là où ils ont accès à tout. Fait qu'il y a tout. Il y a un bon côté de la technologie. Mais le mauvais côté, c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de règles qui sont en jeu aujourd'hui. Là.
Mais quand je parlais d'une période de bouleversement, de changement, les jeunes, autant les jeunes, même les plus vieux, doivent apprivoiser ces nouveaux changements-là, le transfert vers le numérique. Parce que tu le disais, puis les problèmes, c'est des problèmes que je reconnais mon entourage là-dedans, des problèmes d'anxiété souvent, des problèmes de stress, de dépression. C'est des problèmes qu'on se reconnaît et c'est sûr que c'est relié au changement technologique, au numérique, à la culture de la comparaison tout sur les médias sociaux aussi.
Ouais. Culture de la comparaison.
Oh. Et tout va de plus en plus vite. Là, tout est prêt à jeter. Là. Mais quand on regarde ça, c'est la partie négative. Mais l'espérance de vie en un siècle est passée de 48 ans à 43 ans.
48 ans à 83 ans.
Ans. 83 exact. Ans, l'espérance de vie à la naissance.
Ouais.
La pauvreté, les gens qui ont un revenu minimal, c'était il y a une trentaine d'années, 18 % de la population, c'est 10 % aujourd'hui.
On a population mondiale, ça.
Population canadienne.
Canadienne, parce que même dans le monde, ça a beaucoup diminué.
Ça a beaucoup diminué partout. Oui, oui. L'accès à l'eau potable, ça a diminué. Le monde n'a jamais été aussi pacifique, contrairement à ce qu'on pense. J'ai sorti toutes sortes de chiffres aujourd'hui. Il n'y a pas eu de guerre dans les 60 dernières années. C'est historique, ça, dans l'histoire humaine.
Guerre mondiale.
Mais les conflits meurtriers font deux fois moins de morts aujourd'hui. La moyenne de la décennie, c'est 55 000 personnes qui sont mortes dans un conflit guerrier. Il y a 20 ans, c'était 100 000. Mm. Dans les années 60, c'était 180 000.
On a l'impression que c'est davantage parce qu'on est bombardé par les images de ces conflits-là.
Mais oui, ça n'a jamais aussi bien été sur la Terre.
Mais je t'entends, mais malgré tous les progrès, puis même au niveau de l'efficacité de nos vies, l'offre de transport est beaucoup plus élevée, échanger de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand même certaines choses alarmantes qui expliquent un peu pourquoi on se sent aussi près du précipice constamment. Moi, je pense au changement climatique. On est né. Moi, un des premiers essais politiques, c'est le documentaire de Al Gore qui prouvait que la Terre était sur le bord du précipice. On a la montée des populistes, on a Trump, on a la menace de guerre nucléaire. Donc, c'est sûr que c'est normal et c'est des images qui sont extrêmement relayées, qui est dans notre visage constamment. Donc, c'est normal un peu que les jeunes se sentent au bord du précipice. Mais de là à dire que c'était mieux avant, faut apporter une nuance.
Ouais, make America great again, c'était pas vrai. Bernard, c'est ici qu'on l'aura dit, toi et moi, oui. Avec Philippe.
Oui, t'as raison. Make America great again, it's already great.
Exactement.
C'est ça que tu dis.
Exactement. Pour retourner dans le passé, c'est
pas vrai. Alors, OK. Alors maintenant, ça va être vous, les auditeurs, qui allez nous dire ce que vous en pensez. Hein, vous avez vu un peu les deux côtés de la médaille. 790-9850, Drainville, à commercial, 985fm.ca ou encore par texto 98985. Venez vous joindre à la discussion. Hein, disons ça comme ça. Appelez après la pause et Jean-Marc et Philippe restent avec nous.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Alors, est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? On s'en va rejoindre Luc au 790-9850. Bonjour, Luc.
Hey, bonjour, ça va bien, les gars?
Très bien, très bien. Alors, Jean-Marc et Philippe vous entendent, là, Luc.
Écoutez, j'ai 51 ans, j'ai un fils de 25 ans qui est militaire. J'ai essayé de lui inculquer les bonnes valeurs le mieux que j'ai pu. Je vous dirais que moi, ce qui était mieux avant, anyway, ou ce qui était mieux après, c'est tout le temps mieux maintenant parce qu'on serait pas là avant ni après. Fait que c'est sûr que le maintenant est important. Mais je pense que c'est au niveau des valeurs. C'est pas au niveau de la technologie, c'est pas au niveau des autos, du gaz, du ci, du ça. Mais je pense que quand les gens... Vous savez, dans la détresse, tu sais, quand t'es obligé d'aller bûcher ta corde de bois à tous les jours, quand t'es obligé d'aller pêcher, t'es obligé d'aller chasser, t'es obligé d'aller faire un... En tout cas, je pense vraiment qu'on a perdu certaines valeurs humaines au fil des années. C'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? Je pense qu'on est plus dans le « me, myself and I ».
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Mm. Écoutez, c'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? Moi, je pense que, honnêtement, j'aurais aimé exister dans un monde où ce que on est plus... Puis on enlève la religion, là. Je suis vraiment pas un gars religieux, comme pas deux miettes. Mais au niveau des valeurs humaines, je pense qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de ça.
Merci.
Puis ça, je vais vous dire, je m'ennuie de ça. L'entraide, le travail bien fait, vous savez, reconnaître que quelqu'un Vous savez, quand vous bûchez justement pour accomplir quelque chose, je pense que les jeunes aujourd'hui, ou même ma génération à moi qui était un X, si je me trompe pas, là,
oui.
Tu sais, je vais vous dire là, qu'on a eu ça facile pareil. T'sais.
Merci, Luc.
C'est pas mal. En tout cas, c'est ce que je pense.
Merci, merci.
Puis c'est tellement un bon propos, là, les valeurs. Est-ce que les valeurs ont changé? Moi, je vous lis quelque chose, une petite phrase. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin. Qui écrit ça? Un prêtre égyptien, il y a 2000 ans. Voyez ce que Socrate disait en 400 avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Socrate, 470 avant Jésus-Christ.
C'est ça pour dire,
c'est la même chose qu'on dit depuis 3000 ans.
Plus ça change, plus c'est pareil, mon Philippe.
Oui.
Non, mais comment, quand t'entends Luc, là, le monsieur qui vient de nous appeler, là?
Ben, moi, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord sur le fait de la génération un peu plus individuelle. Puis moi, je pense qu'il y a un questionnement aussi, il faut se poser sur la communication. Même si on peut dire que ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est une époque où la communication se fait un peu moins. Il y a un peu moins d'interaction entre les personnes. Et ça fait partie des choses qu'on doit apprivoiser dans notre génération, qu'on doit se poser en question et non laisser aller.
Ah, voyez-vous, il y a Lise qui nous écrit, elle dit « Au niveau matériel, oui, la vie est beaucoup plus facile, mais par contre, du côté humain, c'était meilleur avant. Le sens de la communauté, de l'entraide, le voisinage, du temps pour les contacts humains, à dimension humaine, justement, dit Lise. » Je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans.
Il y a vrai, mais il y a deux choses. C'est que avant, c'était le village qui était le début et la fin.
Oui.
Fait que oui, il y avait une relation humaine, mais on connaissait pas d'autre chose qu'à l'extérieur du village.
Non, puis aller en ville, c'était un grand... C'était gros, là.
Puis avant, on travaillait des heures et des heures. On parle de communication aujourd'hui, on a une perception que les gens étaient ensemble, mais en réalité, là, ça travaillait du matin au soir, là, il y avait pas de temps. Oui, il y avait des fêtes de famille davantage le week-end. Oui, les gens communiquaient le soir, mais toujours en famille dans le même monde.
Les pères parlaient pas, il y a trois générations, deux générations, les pères ne parlaient pas beaucoup, là. Les grands-pères, moi, mais...
Mais on a toujours la nostalgie du passé. Mais la vie était dure. Le Québec était pauvre. Le Québec était dans la misère. Enfin, quand on me dit la question qu'on dit au début, c'était quand avant?
Ouais,
quand
c'est
est-ce
ça.
Que c'était vraiment
c'était
mieux?
C'était pas si
avant?
Longtemps que ça. Là. Moi, j'ai été élevé sur une terre. Là, puis mon père m'a conté là, qu'il ramassait le foin avec des chevaux, là, puis à la fourche. Là. Il n'y avait rien de mécanisé. Là.
Puis la viande, on ne mangeait pas ça toutes les semaines.
Ben non,
quand
ben non,
jeune,
ben non. Puis lui, il recevait des oranges à Noël.
On vit dans l'abondance aujourd'hui, c'est ça. C'est sûr que ce n'est pas parfait. T'sais, les gens ont plus d'amis Facebook, mais se sentent de plus en plus seuls. Les gens vivent dans les grandes maisons, puis des maisons beaucoup plus grandes, beaucoup plus riches, mais il n'y a plus d'enfants à la maison. T'sais. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais on avance.
C'est une bonne clip, ça, que tu viens de nous donner. Là. On va aller rejoindre Carole. Bonjour, Carole.
Oui, bonjour à vous tous. Moi, j'ai assez ri tantôt quand il a fait la citation de Socrate. Et puis,
oui.
J'ai ri parce que c'est vrai. Oui, j'abonde dans l'opinion des deux auditeurs précédents. Là, au point de vue valeur, c'était peut-être un peu mieux, là, valeur humaine. Mais il y a une affaire qui m'écœure aussi, là, c'est qu'avant, ça change pas ces choses-là. Avant, le clergé écœurait les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Puis aujourd'hui, ce sont les laïcs qui font ça. Moi, je me dis, mon utérus, il m'appartient. Si je veux avoir des enfants, ça me regarde. Puis si j'en veux pas, ça me regarde. Alors, on se fait pousser dans le derrière. C'est comme aujourd'hui, c'est in d'avoir des enfants. Si tu n'as pas, tu es plus ou moins anormal. C'est... Alors qu'on accepte plein de choses qui étaient vraiment passées anormales il n'y a pas plus que 20-25 ans. Aujourd'hui, même le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants, on est mal vu. Ben moi, je m'excuse, mais un enfant, avoir des enfants, c'est un privilège, c'est pas un droit. Puis pas ne vouloir d'enfants, c'est également un privilège.
Merci, Carole, pour l'appel. Laissez-moi vous poser la question à tous les deux, en commençant par Philippe. Est-ce que effectivement avoir des enfants, c'est important pour ta génération?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que...
Fonder une famille. Là.
Moi, je pense qu'une des institutions les plus importantes pour les jeunes, ça reste la famille. Il y avait un sondage dans l'actualité qui prouvait que l'attachement aux institutions, peut-être que les institutions politiques et les partis politiques étaient moins importants maintenant pour les jeunes. Mais je pense que l'institution de la famille, ça reste des valeurs qui sont importantes. Et je pense que c'est dans le temps, ça, de dire que les jeunes, ils prennent moins d'importance pour la famille. Mais les valeurs familiales, ça reste important pour les jeunes.
Puis ils ont des enfants de plus en plus tard. Mais c'est au Québec qu'on a le taux de mariage le plus faible par 1000 habitants, puis c'est au Québec qu'on a le taux de divorce le plus élevé par 1000 habitants. Parce qu'il y a beaucoup d'unions de fait ici au Québec, fait qu'il y a des mariages beaucoup plus moins
solides.
Mais
est-ce que ça change avec les plus jeunes? Est-ce que
non,
les plus jeunes...
ça s'accélère.
Ça s'accélère. Les unions de fait,
s'accélèrent. Les unions de fait s'accélèrent de plus en plus. Et les gens ont moins d'enfants par ménage aussi. La moyenne d'enfants par ménage est faible. Au Québec, ça prend au moins 2 enfants par ménage simplement pour se reproduire. Puis les moyennes depuis 20 ans, c'est 1,6, 1,7 enfants par ménage. Donc oui, forcément, on perd de cette réalité-là. Mais une des raisons des jeunes, c'est qu'ils attendent beaucoup plus longtemps. Ils ont leur vie à vivre avant d'avoir des enfants.
C'est clair. On va aller rejoindre Louise. C'est bien ça. Bonjour, Louise.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, je pense que c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Moi, j'ai 62 ans.
Oui.
Puis chez nous, on est 13 enfants. Puis on a vécu à la campagne. Puis dans ce temps-là, je me souviens que ma mère, elle avait un moulin à tordeur, puis elle étendait le linge à la corde l'hiver.
Incroyable.
C'était la misère, ça. Puis les filles, quand elles allaient à l'école, il n'y avait pas de doigts de pantalon. Fait qu'on avait des petites bottes de caoutchouc par-dessus nos souliers avec un manteau, puis on gelait. Mais moi, je trouve que aujourd'hui là, c'est bon. Je suis contente qu'on ait le luxe qu'on a.
Vous trouvez que c'est allé dans la bonne direction, Louise, dans le fond?
Oui. Moi, je pense, là, le fait d'avoir de mieux... on a des meilleures choses alentour de nous.
Plus de confort.
Oui, plus de confort. On a plus de temps pour les loisirs. Loisirs, oubliez ça, là. C'est trop d'ouvrages. Ça n'avait pas d'allure. Puis je pense que plus on va aller plus loin, mieux ça va être. La seule chose que moi, je souhaiterais, là, dans le futur, c'est qu'il n'y ait plus de religion.
Vous avez été marquée par la religion, Louise.
Oui, oui. Chez nous, là, la religion, là, le curé passait, puis c'était sévère.
Ça a été dur, hein?
Puis, oui. Merci. S'il n'y avait pas de religion, puis que le monde se parlerait mieux, puis que tout le monde savait ses mêmes longueurs d'onde, là, les mêmes lois pour tout le monde.
Les mêmes valeurs.
On n'aurait pas de guerre. On n'aurait pas de guerre parce que toutes les guerres qu'on a, c'est probablement dû à toutes les religions qui peuvent exister.
Ça peut jouer des fois. Merci, Louise. C'est effectivement un des facteurs.
Elle explique bien en mots, pareil, des expériences personnelles à 62 ans. Elle a vécu cette époque-là que les jeunes n'ont pas vécu, la misère, la pauvreté au Québec.
Loisirs, elle a tout à fait raison, Jean-Marc.
Oui, c'est exactement
ça. Tu sais, les familles qui étaient élevées sur une terre, là, moi, je me répète, j'ai été élevé sur une terre, là. Mais puis je me plains pas là, on était 6 enfants, ils nous ont tous donné par an, je veux dire, on n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres, on était vraiment de la classe moyenne, puis les parents travaillaient très fort, mais c'était 7 jours semaine, la terre.
Exact.
Qu'est-ce que tu veux, les vaches, ils donnent du lait 7 jours semaine, tu peux pas dire le dimanche, j'irai pas tirer mes vaches.
Exact.
Alors, travailler sur la terre, c'est vrai que c'était travailler 7 jours semaine, et c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de place pour les loisirs. Moi, je vais vous dire, je vous parle des années 70, à un moment donné, je voyais mes chums à l'école, ils prenaient des vacances, les parents s'en allaient dans un camping pendant une semaine, les chanceux s'en allaient à Old Orchard, tout ça, mais moi, je travaillais sur la terre. À un moment donné, j'avais dit à mes parents, je prends des vacances, moi, cet été. J'étais adolescent, 13-14 ans. Je m'en vais chez ma tante Isola, à Montréal. Puis j'ai passé 3 jours chez Isola, sur la rue Folhom, puis j'étais allé au baseball. Je me promenais en métro. C'était mes vacances. J'étais sorti de la terre, de la campagne. J'avais plus besoin d'aller tirer vache avec mon père, puis mes frères, puis mes
sœurs. Ça fait 30-40 ans de ça. C'est pas si loin que ça.
Mais non,
puis là, on parle des gens qui travaillent sur la ferme, mais ceux qui travaillaient dans les usines, exploités par des patrons avec qui étaient cupides, travaillaient des heures interminables pour un salaire minable. C'est ça la réalité du Québec, c'était bon avant. Là. C'est là où on a une réalité. Juste pour la société de loisirs, pour le plaisir intellectuel, là, statistiquement parlant, là, on a plus d'heures de loisirs par semaine. On est passé de 38 heures à 42 heures, tout confondu, de loisirs autres que le travail.
Donc, ça inclut la télé et tout le reste.
De tout, là. Mais en même temps, on travaille autant qu'avant. La différence, il y a un siècle, on dort 1 heure de moins.
Oh, ça, c'est intéressant.
Et toutes les conséquences.
Ça, oui, effectivement, notamment sur la santé mentale. Serge, bonjour, Serge.
Salut, moi je vous écoute depuis tantôt, puis je trouve nos enfants vraiment fantastiques. J'ai 58 ans.
Moi j'aime ça entendre ça.
J'ai un garçon de 28 ans, puis je peux vous dire qu'ils ont des valeurs extraordinaires. Malgré une adolescence qui n'était pas nécessairement facile, aujourd'hui je les regarde avec les enfants, et j'ai la chance d'être grand-parent, et je trouve qu'ils ont des valeurs extraordinaires, contrairement à beaucoup de gens que j'écoute. Ils ont appris... Ils comprennent. Aujourd'hui, ils partagent. Ils ont de l'amour épouvantable à donner. Et il faut juste les écouter puis les suivre. Et lorsqu'on embarque avec eux, là,
les guider un
c'est
peu.
Vraiment merveilleux de les voir.
Les guider un peu.
Merci, merci Serge. Serge, Jean-Marc dit les guider un peu.
Oui, absolument. Pas juste un peu, beaucoup.
Très bien.
Mais ils entendent et ils nous suivent. Il faut juste leur faire confiance.
Très bien, très bien. Merci, Serge. Alors, on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écrivent. Il y en a qui déplorent, par contre, que la notion de responsabilité a peut-être un petit peu pris le bord. Avant, il y avait plus de responsabilité individuelle ou familiale. On a donné ça au gouvernement, dit l'un d'eux. Écoutez, je vous remercie, Jean-Marc et Philippe. D'ailleurs, il y a une auditrice ou un auditeur qui dit, coudon, ils ont la même voix. Êtes-vous sûr qu'ils sont deux dans le studio?
c'est pas la même personne qui parle.
C'est vrai que c'est Jean-Marc qui a beaucoup parlé aujourd'hui. Philippe le regardait, je dirais pas admiratif, mais avec beaucoup de respect.
Il me regardait avec un regard pendant que les gens parlaient. Regarde qu'est-ce qu'il vivait avant.
Tu vois, c'est moi qui avais raison.
Jean-Marc, pour une fois qu'on a raison, Bernard, ben on peut en profiter un peu.
Ah, écoute,
c'est thérapeutique avoir raison.
Il faudrait faire durer ça encore un peu, mais il faut s'en aller à la pause. C'est Philippe qui va être soulagé. Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing. C'est un grand plaisir, Jean-Marc, de te retrouver.
Merci.
Comme d'habitude. Philippe aussi, Philippe Léger. Un millénial, étudiant en journalisme, et on verra bien ce qu'il adviendra de lui une fois que ses études seront terminées.
Oui, en fin de session en plus. Merci à toi, Bernard.
Très bien, repose-toi. Et avant de continuer tes examens et tes travaux de fin de session, là, tu as une couple d'heures devant toi. Oui. Et on va s'arrêter parce qu'au retour, on va parler des étudiants, pas des étudiants, dis-je, des enfants. Les enfants dans les restaurants. Et est-ce qu'ils ont une place dans les restaurants? On va vous demander de témoigner de ça. Moi, j'en ai eu des expériences pas toujours heureuses. Mais en même temps, il y en a des gens qui disent, garde, moi, quand je sors avec ma femme, j'ai le goût d'avoir de la tranquillité, de passer un beau moment. J'ai pas le goût de me faire piocher dans le dos par un enfant qui braille. On va parler de tout ça après la pause.